pour réaliser l'unification de la péninsule coréenne, les troupes de la Corée du Nord, soutenues par Staline, envahissent la Corée du Sud le 25 juin 1950. Les États-Unis, profitant du boycott du Conseil de sécurité par l'URSS, font condamner cette agression par l'ONU. Le général américain Douglas MacArthur, 1880-1964, dirige un corps expéditionnaire international de l'ONU à majorité américaine. Les Américains repoussent les Nord-Coréens jusqu'aux frontières de la Chine, qui envoie alors 700 000 volontaires à partir du 16 octobre 1950. En 1951, la guerre de Corée atteint des proportions dramatiques. L'armistice de Panmunjom du 27 juillet 1953 met fin à une guerre meurtrière. 2,5 millions de morts, blessés ou disparus. Les années 1947-1953 ont donc été marquées par de violentes oppositions idéologiques et des affrontements par alliés interposés orchestrés par les deux grands. À partir de 1953, la guerre froide diminue d'intensité et les relations internationales entrent dans une phase de dégel. La détente dans les relations internationales, les deux grands éprouvent le besoin d'apaiser une guerre froide devenue trop dangereuse. Chaque camp devait avoir à l'idée que l'existence de l'autre était une réalité et qu'une guerre pour le détruire était aléatoire et impensable. Cette situation est bien illustrée par la célèbre boutade du philosophe et sociologue français Raymond Aron, 1905-1983. Paix impossible, guerre improbable. Plusieurs facteurs expliquent l'avènement de la détente. Staline, décédé le 5 mars 1953, et Truman quittent la scène politique. Ils sont remplacés respectivement par Nikita Sergeïevitch Khrushchev, 1894-1971, chef de l'URSS de 1953 à 1964, et Dwight David Eisenhower, 1890-1969, 34e président des États-Unis de 1953 à 1961, qui mène de politiques extérieures moins conflictuelles, armistice en Corée en 1953, accord de Genève sur l'Indochine en juillet 1954, traité sur l'Autriche en 1955, rencontre Kennedy-Khrushchev en juin 1961 à Vienne. Les crises au sein des blocs. Dans le bloc de l'Ouest, il y a la contestation de la suprématie américaine par la France du général de Gaulle, 1890-1970, président français de 1959 à 1969, qui reconnaît la Chine maoïste en 1964, se retire de l'OTAN en 1966 et condamne l'intervention des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Dans le bloc de l'Est, les fissures étaient plus nombreuses. Rupture sino-soviétique en 1960, initiative réformatrice en Pologne avec Władysław Gomułka, 1905-1982, et en Hongrie avec Imre Nagy, 1896-1968, printemps de Prague en Tchécoslovaquie en 1968. L'émergence du tiers-monde, avec notamment les conférences de Bandung, 18-24 avril 1955, et de Belgrade, 1er-6 septembre 1961, fondation du mouvement des non-alignés. Le surarmement et la compétition pour la conquête de l'espace. L'URSS comble vite son retard technologique sur les États-Unis en disposant de la bombe atomique en 1949 et de la bombe H en 1953, en mettant au point le premier satellite artificiel, le Sputnik en 1957, et en envoyant le premier homme dans l'espace le 12 avril 1961, Yuri Alexeyevitch Gagarin, 1934-1968, le président John Fitzgerald Kennedy, 1917-22 novembre 1963, 35e président des États-Unis de 1961 à 1963, réagit en chargeant la NASA, National Aeronautics and Space Administration, créée en octobre 1958, de la mission Apollo, dont l'objectif est l'envoi d'un équipage sur la Lune, Neil Alden Armstrong, né en 1930, à l'UNIT le 21 juillet 1969. Les deux grands se lancent dans une véritable course aux armements avec la construction de missiles intercontinentaux, de sous-marins nucléaires et de bombardiers stratégiques. Ils peuvent à la fois mener une guerre nucléaire graduée ou s'anéantir dans un délai très court. Cet équilibre de la terreur pousse les deux grands à engager au début des années 1960 des négociations pour le désarmement, d'autant plus que le contexte international change. La Grande-Bretagne, la France puis la Chine détiennent l'arme nucléaire. La logique bipolaire d'affrontement s'affaiblit alors. Mais la coexistence pacifique repose sur des bases fragiles. 2. La crise des fusées de Cuba de 1962, illustration des limites de la détente, en dépit des bonnes intentions déclarées, les deux grands continuent leur rivalité, avec notamment la seconde crise de Berlin et surtout la crise des fusées de Cuba. En Allemagne, Berlin-Ouest sert de tremplin pour l'émigration vers la RFA. C'est une contre-propagande pour les Soviétiques. Ainsi, les autorités de la RDA édifient, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur fortifié séparant les deux parties de la ville. Surnommé le « mur de la honte », le mur coupe Berlin pendant 28 années et symbolise la division du monde en deux blocs séparés par ce que Churchill appelait déjà, le 5 mars 1946, le « rideau de fer »,« Iron Curtain ». Mais c'est surtout la crise des fusées de Cuba qui étale au grand jour les limites de la détente. La crise des fusées de Cuba est déclenchée en 1962 par l'installation à Cuba de rampes de lancement de missiles soviétiques révélées par un avion espion U-2. Le déploiement des fusées soviétiques fait suite au débarquement de 1 500 commandos cubains formés et armés par la CIA. Débarquement de la baie des Cochons du 17 avril 1961 pour renverser le régime de Fidel Castro, né en 1927, dirigeant de Cuba depuis 1959, surnommé le « leader Maximo ». Face à la situation, le président américain Kennedy opte pour une riposte graduée. Dans un discours télévisé le 22 octobre 1962, il annonce un blocus autour de l'île de Cuba afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux missiles et se déclare prêt à employer l'arme nucléaire tout en ouvrant la porte à des négociations. Le monde est soudain suspendu à la menace d'une possible guerre nucléaire. Les deux grands négociants au-dessus de la tête de Castro. Le dirigeant soviétique Khrushchev accepte, le 28 octobre 1962, de démanteler les missiles en échange de quoi les États-Unis n'interviendraient pas dans les affaires de l'île de Cuba. L'accord final entre les deux chefs d'État comporte une clause secrète par laquelle les États-Unis s'engagent à retirer les missiles installés en Turquie. Les missiles soviétiques sont démantelés le 12 novembre 1962 et la quarantaine est levée le 20 novembre. Le bras de fer psychologique auquel cette crise a donné lieu aboutit à un début de détente relative dans la course aux armements. Grand 3 du rapprochement entre les blocs à la fin de la guerre froide. 1. À partir de 1963, une liaison téléphonique directe, le « téléphone rouge », est mise en service entre Washington et Moscou. Les deux grands entament alors des négociations ayant permis la signature de plusieurs accords. Interdiction des explosions atomiques, sauf les explosions souterraines, en 1963. Utilisation pacifique de l'espace en 1967. Traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP, en 1968. Traité de non-nucléarisation des fonds marins, le 11 février 1971. Accord SALT I, 26 mai 1972. Cependant, au milieu des années 1970, une période de tension commence avec la guerre fraîche. 2. En déployant des missiles SS-20 à partir de 1976, l'Union soviétique rompt l'équilibre des forces en Europe. Le 12 décembre 1979, les pays de l'OTAN décident de développer des programmes de missiles équivalents, les Pershing. Les premiers Pershing sont installés en 1983, malgré un important mouvement pacifiste en Europe de l'Ouest. Les Soviétiques envahissent l'Afghanistan le 24 décembre 1979. En réponse, les États-Unis adoptent une série de mesures de rétorsion, suspension des ventes de céréales à l'URSS, non-ratification des accords SALT II du 18 juin 1969 par le Congrès américain, boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980 par les Américains. La tension s'accroît après l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis en novembre 1981. Reagan, 1911-2006, 40e président des États-Unis de 1981 à 1989, défend une politique interventionniste, révolution conservatrice, concrétisée par le débarquement des forces américaines dans l'île de Grenade, capitale Saint-Georges, pour contrer un coup d'État pro-cubain, 23 octobre 1983, et le soutien militaire aux guérillas anticommunistes au Nicaragua, soutien aux sandinistes contre les Contras, en Afghanistan et en Angola, soutien à l'UNITA contre le MPLA. La course aux armements reprend également. En mars 1983, Reagan lance l'initiative de défense stratégique, IDS, ou Guerre des étoiles, visant à édifier un bouclier spatial contre les armes nucléaires. 3. La fin de la guerre froide, 1985-1991. En 1985, l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, né en 1931, à la tête de l'URSS, est le point de départ d'une évolution radicale des relations Est-Ouest. D'abord, la situation intérieure de l'URSS est catastrophique. Économie délabrée, système politique corrompu, bureaucratie incompétente, niveau de vie très faible.